je change de ton pour évoquer quelque chose de beaucoup moins drôle. Vous avez sans doute entendu parler, comme moi, du terrible drame qui a eu lieu dans le Gard la semaine dernière, dans le cadre d'inondations. Une voiture a été emportée par des inondations, une mère de famille, et ses deux enfants ont péri dans ce drame. Seul le père a survécu. Et les mots manquent pour qualifier ce genre de choses dont nous entendons régulièrement parler aux informations. Le drame de cela, pour ceux qui perdent la vie, bien sûr, pour ceux qui restent également. Je sais qu'à divers degrés, plusieurs ici présents même ont vécu des drames dans leur vie. Nous vivons dans un monde déchu, la Bible l'enseigne, insiste là-dessus. Un monde soumis au mal, soumis à la violence et à la souffrance qui va de pair avec ces réalités, liées également au dérèglement de la nature, comme ça a pu être le cas pour ces inondations. Un monde donc dans lequel l'homme, à divers degrés, fait face à des drames et à des souffrances. Nous attendons de tout notre cœur le renouvellement de toutes choses, ce jour que la Bible promet, où il n'y aura plus de souffrance, plus de mal, une nouvelle histoire avec un grand H encore à venir, un nouveau monde même, voilà notre espérance. Mais en attendant, nous vivons dans ce monde soumis, comme l'écrit l'apôtre Paul, soumis à la futilité. Et nous allons examiner un texte de l'Ancien Testament qui nous montre un drame personnel, un drame familial, et qui nous montre l'action de Dieu face à ce drame. Il y a quelques semaines, nous avons vu ensemble le chapitre 3 du deuxième livre des Rois, et là on a vu l'œuvre de Dieu à grande échelle, dans le cadre d'un conflit géopolitique qui implique Israël, Juda, Édom et Moab. Il y a quelques semaines que nous avons examiné ce texte, et nous avons vu que dans cet épisode, on voit le Seigneur intervenir dans sa grâce, et venir délivrer son peuple alors qu'il était très loin, ce peuple, de mériter cette délivrance. En arrière-plan du second livre des Rois, il y a un contexte spirituel maussade, et on était également revenu là-dessus la dernière fois. On voit un peuple d'Israël qui a, dans une large mesure, délaissé le Dieu avec lequel, le Dieu qui a conclu alliance avec lui, pour se tourner vers diverses idoles, divers culte en tout genre. Et on a pu voir quelques parallèles un peu inattendus avec notre époque. Mais on l'a vu, malgré la défaillance spirituelle du peuple, eh bien Dieu a choisi de venir au secours de son peuple. Et on a vu ça donc à grande échelle au chapitre 3. Nous arrivons ce matin au chapitre 4, donc 2 Rois, chapitre 4, dans les Bibles bleues, pour ceux qui voudraient utiliser cette Bible, c'est à la page 360. Et là, on change complètement d'échelle. On va également voir l'œuvre de Dieu et on va également voir la grâce de Dieu, mais cette fois dans un cadre beaucoup plus petit, beaucoup plus restreint, auprès d'une famille qui restera anonyme tout au long du récit d'ailleurs. Et donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à ouvrir vos Bibles à ce second livre des Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Rois 4, versets 1 à 7. La femme d'un des prophètes cria vers Élisée. « Mon mari, ton serviteur, est mort, et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit, « Moi, ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Sors dans la rue, demande à tous tes voisins des récipients vides. Ne te contente pas d'un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui passait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de récipients. » Alors lui, il s'arrêta. Elle va raconter tout cela à l'homme de Dieu, c'est-à-dire Élisée. Celui-ci dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui te restera. » un texte un peu curieux, une petite anecdote presque, dans ce caché un peu dans ce deuxième livre des rois. En examinant ce texte, je voudrais qu'on se pose la question suivante. Qu'est-ce que Dieu nous révèle ici de son attitude et de son action face à un drame? Et nous allons essayer d'en tirer certaines leçons pour nous-mêmes. On va voir ça en trois temps, dans un élan d'audace. D'abord donc un appel à l'aide, ensuite un miracle sur mesure et enfin un aperçu du cœur de Dieu. Un appel à l'aide, donc, pour commencer. Le début du second livre des rois nous parle d'un passage à témoins entre le prophète Élie. Élie qui a consacré sa vie à appeler le peuple d'Israël à revenir à son Dieu dans le contexte maussade et idolâtre dont on a déjà parlé. Et puis Élie passe le témoin à son successeur Élisée, qu'on a vu à l'œuvre au chapitre précédent, lorsqu'il va se faire le porte-parole de Dieu dans le contexte de cette bataille entre Israël, Juda d'une part et Moab d'autre part. C'est le même Élisée qu'on retrouve ici. Le texte ne précise pas vraiment où ni à quel moment, mais on voit donc que la veuve d'un autre prophète du Seigneur, Élisée n'était pas le seul, vient vers lui et lui annonce la mort de son mari. Cette femme fait face au pire moment de sa vie. Nous pourrions sans doute tous réfléchir à ce qui ont été les pires moments de notre vie. Ce n'est pas quelque chose de très agréable, bien sûr. Peut-être ici la perte d'un emploi, peut-être un diagnostic médical inquiétant, peut-être une situation de grande difficulté conjugale, peut-être le deuil d'un être cher. Peut-être que ce matin même, certains sont en plein cœur de la tempête. La femme de notre récit, elle vient de devenir veuve. À l'époque, outre la douleur émotionnelle qu'on imagine facilement ou pas d'ailleurs, le fait de devenir veuve était également un drame social. Le père de famille était très généralement celui qui pourvoyait aux besoins matériels de la famille. Il n'y avait à l'époque pas de pension de veuvage, il n'y avait pas de sécurité sociale. Et c'est très certainement pour cela que la veuve a été obligée de s'endetter et on voit dans ce texte qu'elle ne peut plus faire face. Et la situation à laquelle elle s'expose est terrible. On le voit dès le verset 1. « Le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Autrement dit, les deux enfants de la veuve vont être soumis aux travaux forcés jusqu'à ce que la dette soit repayée, si tant est qu'elle le soit un jour. Donc le narrateur nous montre une situation particulièrement dramatique. Et je pense qu'il cherche aussi à mettre le doigt sur ce qui peut paraître une injustice. Le mari de cette femme, celui qui vient de mourir, craignait le Seigneur, nous dit-elle. Et manifestement, elle aussi, puisqu'elle se dirige vers Élisée, celui qui est reconnu comme étant conduit dans son ministère par le Seigneur. Or, cette crainte de Dieu n'a pas empêché la famille de faire face à la pauvreté, au deuil, à l'injustice. Cette question, on y a tous fait face, au moins indirectement. Comment expliquer que des chrétiens fidèles, persévérants, puissent être exposés au malheur? Il y a plus d'un an, dans le cadre des réunions du conseil de l'association Baptiste, nous avons appris le décès brutal dans un accident de celui qui venait de devenir le directeur du séminaire baptiste de Madagascar. Un homme apprécié, encore relativement jeune, qui servait Dieu finalement. Son ministère était une réponse aux prières. Comment comprendre que Dieu le rappelle à lui si subitement? Je n'ai pas la réponse à cette question. La veuve de notre texte n'avait sans doute pas beaucoup de réponses non plus aux questions qui étaient les siennes. Mais il est important de souligner sa démarche. Elle appelle à l'aide. Dans sa détresse, elle cherche le secours auprès de Dieu. C'est certainement comme cela qu'il faut interpréter le fait qu'elle se dirige vers Élisée, prophète du Seigneur. Verset 1, on l'a vu, « Mon mari, ton serviteur, est mort et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Il est frappant de voir que la veuve ne propose pas de solution. Elle ne dit pas « Voilà ce que Dieu devrait faire pour moi. Peux-tu prier pour moi, s'il te plaît ?» Simplement, elle appelle à l'aide, sans demander rien de précis, mais elle appelle à l'aide. Elle exprime sa douleur et son besoin à Élisée. Il faut reconnaître qu'appeler à l'aide n'est pas quelque chose de facile. Peut-être particulièrement dans la culture d'aujourd'hui, culture de l'apparence où il faut toujours donner la meilleure image de soi-même. Reconnaître qu'on est vulnérable, qu'on n'arrive pas à s'en sortir face à telle ou telle situation, c'est très difficile. Et même dans une église comme la nôtre, il peut arriver qu'une fausse idée de la piété ou de la persévérance dans l'épreuve l'idée de la persévérance dans l'épreuve est une bonne idée, mais d'une fausse conception de cela nous pousse à toujours vouloir garder tout pour nous-mêmes, toujours prendre sur soi toutes les souffrances par lesquelles nous pouvons passer. Or Dieu nous appelle à exprimer notre souffrance, pas bien sûr à n'importe qui, à n'importe quel moment et dans toutes les circonstances, mais il nous invite à l'appeler à l'aide, parce que la Bible nous montre de manière très claire que même dans les situations les plus difficiles, Dieu est là, pleinement disponible, et il a encore des projets pour nous. Dans ce récit, on peut supposer que la veuve a appelé Dieu à l'aide directement par la prière, mais on voit aussi donc qu'elle va chercher Élisée et qu'elle lui expose son problème. Alors c'est frappant de voir aussi que plus loin, la solution qu'apporte Élisée de la part de Dieu va impliquer la solidarité de tous les voisins. On se croirait presque à l'émission « Tous ensemble », où on va chercher les voisins pour aider à reconstruire une maison. La veuve doit demander à tous ses voisins des récipients vides, et Dieu va utiliser ces récipients pour apporter sa délivrance. On voit donc que Dieu intervient, mais il utilise des hommes et des femmes aussi comme médiateurs, en quelque sorte, de son intervention. Et il n'y a là aucune contradiction. Les réponses de Dieu à nos prières se font souvent par le biais de son peuple. C'est aussi pour cela que Dieu nous appelle à vivre en tant que peuple, en tant que communauté. Beaucoup ont sans doute entendu cette petite histoire fictive, une sorte de blague entre guillemets, même si au final elle n'est pas très drôle. Un homme menacé par une inondation et qui prie Dieu de venir à son secours. Un voisin, juste après cette prière, lui tend une échelle et il la refuse en disant « Non, j'ai prié Dieu et il va venir à mon secours ». Et puis, un peu plus tard, des gendarmes passent à côté de lui et lui expliquent qu'il peut monter sur le toit et qu'ils vont essayer d'aller le chercher. Et puis là, il dit « Non, c'est bon, j'ai prié, Dieu va venir à mon secours ». Enfin, c'est un hélicoptère qui s'approche et on essaie de lui lancer une corde. Il refuse en disant « J'ai prié, je fais confiance au Seigneur, il va me secourir ». Après avoir finalement péri dans le drame, il demande à Dieu « Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé ?» Et Dieu lui dit « Mais je t'ai envoyé un voisin, des gendarmes et un hélicoptère ». Alors, au-delà de cette petite histoire mi-drôle, mi-amère, le texte de ce matin, parmi d'autres, nous rappelle que la vie avec Dieu ne se vit pas seule, elle se vit au sein d'un peuple. Alors aujourd'hui, ce peuple, c'est l'Église, le peuple de Jésus-Christ, un peuple qui se rassemble localement, comme ici à la rue de Sèvres et ailleurs, bien sûr, un peuple qui communique, qui, comme on l'a fait plus tôt, se rappelle l'œuvre de Dieu en sa faveur régulièrement, un peuple qui vit sa foi ensemble, un peuple qui vit aussi les épreuves de la foi ensemble. Et peut-être qu'il y a quelque chose que vous demandez à Dieu depuis longtemps, un secours, un réconfort, une aide dans telle ou telle situation, mais qu'en même temps, peut-être sans vous en rendre compte, peut-être sans m'en rendre compte, peut-être que nous nous privons du soutien qu'il souhaite nous apporter par le biais de la communauté. Peut-être que ce frère ou cette sœur avec qui vous avez l'habitude d'échanger simplement les nouvelles du travail, de la famille, parler un peu de tout et de rien, peut-être que ce frère ou cette sœur peut, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, être celui ou celle qui va passer du temps avec vous dans la prière, à qui vous allez pouvoir confier votre besoin, votre souffrance. Il y a bien sûr aussi des responsables spirituels dans cette église pour cela. Je signale aussi que nos groupes de quartier sont un lieu particulièrement approprié pour pouvoir parler de sujets plus difficiles à exprimer. N'ayons pas peur d'appeler Dieu à l'aide, non seulement dans le secret de nos cœurs, bien sûr que c'est la priorité, c'est la première chose à faire, mais aussi en étant prêt à partager au sein de notre communauté nos peines et nos épreuves. Je reviens à notre texte pour aborder, après cet appel à l'aide, le deuxième point que je voudrais soulever, un miracle sur mesure. On a vu que la veuve a été prête à appeler au secours, et elle a trouvé un prophète qui était prêt à lui apporter le secours de Dieu. Verset 2, « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi ce que tu as à la maison. » Il est très frappant de constater qu'Élisée demande à la femme ce qu'elle a chez elle. Il lui laisse même pas le temps de répondre à « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que tu as à la maison ?» Il commence par faire le point sur sa situation, aussi désespérée soit-elle. Cet épisode reflète bien la manière de faire de Dieu telle qu'il se révèle souvent dans la Bible. Souvent, Dieu commence par utiliser ce que nous avons, y compris, et peut-être même surtout quand c'est très peu. Dans notre texte, on voit que c'est un simple flacon d'huile. C'est dérisoire. C'est trois fois rien. Et on peut se demander, mais comment est-ce qu'Élisée, et ultimement, comment est-ce que Dieu va pouvoir faire quoi que ce soit à partir d'un flacon d'huile ? Or, plusieurs épisodes de la Bible nous montrent que Dieu aime manifester sa puissance dans notre faiblesse. Moïse dit qu'il n'arrivera pas à parler en public et qu'il n'est vraiment pas l'homme de la situation pour le job de sauver les Israélites du joug égyptien et de les amener dans le désert. Dieu répond qu'il fera avec. Il supplée aussi à Aaron dans certaines situations. David se présente devant Goliath simplement avec une fronde. Dieu n'a aucun problème à l'utiliser, à faire avec ce qu'il a. Les disciples de Jésus, face à une foule affamée de plus de 5000 personnes, n'ont que quelques pains et quelques poissons. Eh bien, Jésus utilise ce qu'ils ont et nourrit la foule avec. Peut-être que nous avons des dons, des circonstances ou des disponibilités qui nous paraissent extrêmement maigres, dérisoires. Par exemple, je vois mal comment je pourrais témoigner de ma foi auprès d'autres personnes, alors que moi-même, j'ai plein de questions, j'ai plein de doutes et j'ai plein de problèmes. Dieu peut utiliser le très peu que nous avons. Ou bien je suis épuisé par mon travail, ma vie de famille, j'arrive à peine à lire ma Bible régulièrement, alors encourager d'autres chrétiens, c'est vraiment pas pour moi. Il y en a d'autres qui sont sûrement mieux placés. Dieu peut utiliser ce trois fois rien, ou même ce rien du tout qu'il nous semble avoir, que nous paraissons avoir. Et je crois que Dieu nous pose cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que tu as à la maison ? Qu'est-ce que nous avons à la maison ? Revenons-en à notre veuve. Elle n'a qu'un flacon d'huile. Élisée, animée par le Saint-Esprit, n'a aucun doute sur le fait que Dieu va intervenir dans cette situation à partir de cet objet misérable. C'est frappant de voir à nouveau comment Dieu, par l'intermédiaire d'Élisée, va pleinement impliquer la veuve aussi dans cette délivrance, qui vient exclusivement de sa grâce à lui, mais il va l'impliquer pleinement. Verset 3, « Sors dans la rue, demande à tous tes voisins des récipients vides, ne te contente pas d'un petit nombre. » Non seulement Dieu va utiliser le peu que la veuve a, mais il va accomplir un miracle en quelque sorte sur mesure, en utilisant du début à la fin des choses qui sont là autour d'elle, qui sont à sa portée, qui sont disponibles pour elle. Un misérable flacon d'huile va devenir une source abondante d'huile qu'elle pourra revendre et avec laquelle elle pourra assurer la pérennité matérielle de son foyer. Des récipients vides vont devenir des récipients pleins à ras-bord de l'abondance que Dieu a pourvue. Il serait tentant, comme disent les théologiens, d'allégoriser de manière arbitraire ce petit épisode, de le décortiquer un peu dans tous les sens pour voir des sens cachés ici ou là, parfois ce qu'on est tenté de faire lorsqu'on ne sait pas trop quoi faire d'un petit texte biblique. J'espère ne pas faire cela et je ne veux pas le faire. Il me semble en revanche que dans ce texte, Dieu a voulu, entre autres choses, nous montrer donc cette manière d'agir qui est la sienne dans nos situations de difficulté. Alors en disant cela, je ne parle pas tant du caractère surnaturel de l'action de Dieu dans cet épisode. Et j'ouvre ici une toute petite parenthèse. Il me semble que la Bible montre que si bien sûr Dieu peut accorder des miracles comme il le veut, quand il le veut, où il le veut, et il le fait, et encore aujourd'hui, il le fait, mais ce n'est pas sa manière habituelle d'agir. Dieu est lui-même, il faut le souligner, on l'oublie souvent, Dieu est lui-même à l'origine des lois régulières de notre univers. C'est Dieu qui a voulu les lois de cause à effet qui régissent notre univers, elles viennent de lui. Et généralement, c'est dans le cadre de ces lois régulières qu'il inscrit son action dans le monde. Ce qui explique qu'on ne passe pas notre temps à voir des actes surnaturels. Mais Dieu, bien entendu, je le souligne, peut évidemment agir par des actions naturelles. Il le fait encore et dans ce texte, on voit qu'il le fait. Je referme la parenthèse. Mais en disant que ce texte nous révèle la manière d'agir de Dieu dans nos situations de difficulté, je parle plutôt de cette démarche que j'ai déjà soulignée, par laquelle Dieu répond précisément aux besoins de la veuve, la rencontre là où elle est et utilise ses circonstances pour agir. Et je nous pose cette question. Et si Dieu voulait précisément utiliser ces choses et ces personnes qui sont autour de nous, qui font partie de notre quotidien, pour faire venir sa délivrance, pour faire venir l'abondance de ses bienfaits dans notre vie. Il peut s'agir d'une délivrance de la précarité ou de la pauvreté, comme dans ce texte, mais on peut imaginer bien d'autres situations dans lesquelles nous nous sentons pauvres. Peut-être ici, cette vie conjugale un peu médiocre, ou voire franchement en crise. Peut-être là, cette situation professionnelle qui ne correspond pas à ce qu'on avait envisagé pour sa vie. Peut-être cette santé défaillante. Peut-être cet exil non choisi, loin de son pays d'origine. Peut-être ce célibat qui dure et dont on souffre. Peut-être cette dépression dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et si le Seigneur avait pour projet, d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée, d'utiliser précisément ces circonstances actuelles pour manifester sa puissance. Notre Dieu est un Dieu qui a utilisé un instrument de torture, la croix, pour apporter la vie, l'abondance, le pardon, pour nous sauver. A fortiori, il peut utiliser ces choses qui nous apparaissent dérisoires ou même qui nous apparaissent comme des blessures ou qui nous font souffrir. Il peut les retourner pour en faire le lieu de la manifestation de sa puissance et de sa gloire. Pour revenir aux exemples donnés tout à l'heure, certains d'entre eux en tout cas, peut-être un couple qui, dans ses difficultés, parvient tout de même à s'en remettre d'un commun accord à Dieu, se laisser transformer et devenir une source d'encouragement et de solidité pour d'autres. Une maladie vécue dans la foi et l'espérance en Dieu, qui accomplit un témoignage plus puissant que jamais pour ceux et celles qui sont autour et qui seront marqués de façon durable, indélébile peut-être, par ce témoignage de persévérance et de foi. Un célibat saisi, pour un temps en tout cas, comme une occasion d'être particulièrement disponible auprès des frères et sœurs, dans la prière également, témoignage aussi de paix, de persévérance, de foi que seul Dieu peut donner. Un métier peut-être pas très intéressant, pas très reconnu, mais où Dieu va se révéler de façon surprenante pour toucher les collègues. Si souvent nous demandons à Dieu de nous donner ce que nous n'avons pas, et parfois c'est légitime, mais peut-être que nous devrions aussi commencer par demander à Dieu d'utiliser ce que nous avons, même si ça nous apparaît dérisoire, lui remettre pleinement, lui consacrer. Et peut-être que pour nous, dans les jours qui viennent, ça pourrait commencer par une sorte d'audit de notre vie devant Dieu, lui dire « voilà Seigneur, voilà ce que j'ai ». Peut-être que ça sera juste un flacon d'huile, ou peut-être même moins, mais de lui demander d'agir, d'utiliser cela à sa gloire et pour son honneur, et cela c'est toujours ce qui fait notre bien en définitive, et de transformer notre vie pour la remplir de l'abondance de joie qu'il tient en réserve pour nous. Il ne nous échappe pas que l'huile est aussi, dans la Bible, souvent un symbole de joie. On arrive au dernier point, dans la continuité de ce que nous venons de voir, un aperçu du cœur de Dieu. Dieu n'a aucun intérêt, entre guillemets, stratégique à accorder le miracle à cette veuve insignifiante qui est issue d'une famille pauvre, dont on n'entendra plus jamais parler. Elle n'est même pas nommée, ni elle ni ses fils, dans ce texte. Dieu n'hésite pas pourtant à envoyer son prophète Élisée, qu'il a envoyé auprès des troupes armées d'Israël peu avant. Ben là, il les envoie chez la veuve, auprès d'elle, pour qu'il lui apporte sa délivrance. Il va s'assurer même que non seulement le présent, mais aussi l'avenir de cette veuve et de sa famille seront pourvus. Comment comprendre une telle attention à si petite échelle? Et je confesse que c'est l'une des choses qui, personnellement, me bouleverse le plus face au Dieu qui se révèle dans la Bible. Comment comprendre que le Dieu éternel, tout-puissant, omniscient, intervienne dans nos situations à si petite échelle? Parfois, il y a même chez moi un peu d'incrédulité. Est-ce que vraiment ça peut intéresser Dieu? Et il me semble que ce texte, comme d'autres, nous montre que Dieu est un grand sentimental. Le même Dieu qui, dans certaines situations dont nous prenons connaissance dans la parole en particulier, nous remplit de crainte, et c'est aussi une bonne chose, face à l'ardeur de sa colère contre le mal, de son jugement, eh bien Dieu donne ici un aperçu de son cœur incomparable. Et la compassion de Dieu, et ça la Bible nous le montre à bien des reprises, ce n'est pas une bienveillance distante et distraite, un peu comme un Père Noël distant. Non, c'est une compassion qui le prend aux tripes, si j'ose dire. Et la Bible utilise ce type de langage d'ailleurs parfois. Le Dieu dont le prophète Sophonie dit qu'il pousse des cris de joie au sujet de son peuple, au sujet de nous. Le Dieu qui dit à propos de son peuple infidèle par l'intermédiaire du prophète Osée, « Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. » Et de manière plus éclatante encore, le Dieu qui se révèle parfaitement, définitivement en Jésus-Christ et qui va faire arrêter une procession dans la petite ville de Naïn, Luc 7, versets 11 à 17, parce qu'il est bouleversé par une veuve qui a perdu son fils unique. Il passe des heures à guérir les foules. Il nourrit plus de 5000 personnes à partir de 5 pains et 2 poissons. Et dans l'histoire de la veuve, comment ne pas voir des échos ou des avant-goûts de notre histoire, à chacun d'entre nous, en tout cas ceux d'entre nous qui sommes chrétiens, et je l'espère bientôt pour ceux qui ne le sont pas encore. Nous étions endettés auprès de Dieu, envers Dieu, au-delà de tout espoir, sans espoir de pouvoir trouver compassion auprès de lui par nos propres efforts. Nous étions réduits à l'esclavage, de notre péché. Nous n'avions rien, pas même d'ailleurs un flacon d'huile, à faire valoir devant la justice de Dieu à cause de la gravité de notre péché. Mais Dieu a entendu notre appel à l'aide. En Jésus-Christ, il est venu à notre secours. Il a pris ce que nous sommes et il a pris ce que nous avons et ce que nous n'avons pas. Il a pris ses réalités dérisoires par rapport à lui, à sa plénitude, à sa magnificence. Et il nous a comblés pour toujours de l'abondance qui vient d'une relation éternelle avec lui. L'apôtre Jean, un homme qui, comme les autres apôtres, n'a pas eu une vie facile, loin de là, il écrira ceci au début de son évangile. « Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. » Jean 1, verset 16. Certaines de ces grâces ne sont pas celles qu'on attend. Dieu, la Bible le montre, manifeste aussi sa grâce par et dans nos épreuves. L'apôtre Paul, d'ailleurs, alors même qu'il célèbre cette grâce parfaite et permanente reçue de Dieu, il peut écrire au chapitre 5 de sa lettre aux Romains, verset 2 et suivant, « C'est par Jésus-Christ que nous avons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses. » Sachant que la détresse produit l'endurance. L'endurance, une fidélité éprouvée. Et une fidélité éprouvée, l'espérance. Pour Paul, ces détresses, elles font partie de la plénitude de grâce que Dieu donne. Difficile à dire lorsqu'on est dans l'épreuve, j'en conviens pleinement. Et c'est seulement par la foi en Dieu, un Dieu qui domine le présent et l'avenir, un Dieu qui a tout sous sa maîtrise, que nous pouvons confesser cela avec foi. Plus loin dans la même lettre aux Romains, chapitre 8, l'apôtre rappelle que ni la mort ni la vie, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le fait de savoir que je suis aimé, que nous sommes aimés par un Dieu tout-puissant et qui maîtrise l'histoire, ça revient à savoir que même les plus dures épreuves se révéleront un jour mystérieusement comme des circonstances que Dieu aura utilisées pour me faire grâce, pour nous faire grâce. Dieu m'émerveille et il me fait trembler dans sa parole lorsqu'il se révèle dans sa puissance, dans sa majesté. Ça donne un peu le vertige parfois. Mais pour ma part, je crois que parfois il me fait trembler encore plus lorsque lui, l'alpha et l'oméga, il entre chez nous en silence, il vient à notre chevet, il nous tend la main et il nous relève. Amen.